Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est un grand chirurgien, professeur d'histoire de la médecine, que reçoit Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jean-Noël Fabiani vient de faire paraître un ouvrage passionnant sur l'histoire de l'hôpital à travers les siècles. Il a des choses passionnantes à nous raconter et toute une série d'anecdotes, vous allez voir. Pour entrer dans le sujet, je vous propose de revivre ensemble la terrible épidémie de choléra à Paris. C'était en 1832.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Hugues sur les origines de la Aspirine.
Je pense que le professeur Fabiani serait mieux à même que moi de répondre à une question sur les origines de l'aspirine. D'ailleurs, vous allez voir que cette aspirine a été découverte ou en tout cas mise au point dans les années 1830, c'est-à-dire à peu près au moment où Paris subissait cette grande épidémie de choléra.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Que diriez-vous de commencer par une page de littérature? Et quelle littérature, puisque je vais la saisir au creux des mémoires d'outre-tombe de monsieur de Chateaubriand. Je cite Chateaubriand. Chacun continuait de vaquer à ses affaires et les salles de spectacle étaient pleines. J'ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du cabaret, buvant sur une petite table de bois et disant en élevant leur verre « À ta santé, Morbus !» Morbus, par reconnaissance, accourait et il tombait mort sous la table. Les enfants jouaient au choléra. Le choléra avait pourtant sa terreur, un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie qui se continuait partout, donnait à ces jours de peste un caractère nouveau et une autre sorte d'épouvante. On sentait un malaise dans tous ses membres. Un vent du nord, sec et froid, vous desséchait. L'air avait une certaine saveur métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherche-Midi, des fourgons du dépôt d'artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée, surtout d'un côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte. Ils ne pouvaient suffire aux demandes. On leur criait par les fenêtres « Corbillard, ici !» Le cocher répondait qu'il était chargé et ne pouvait servir tout le monde. Un de mes amis, monsieur de Pouqueville, venant dîner chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard de Montparnasse, fut arrêté par une succession de bières presque toutes portées à bras. Il aperçut dans cette procession le cercueil d'une jeune fille sur lequel était déposée une couronne de roses blanches. Une odeur de chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette ambulance fleurie. Voilà le climat de Paris en cette période de choléra, un climat fait d'insouciance, vous l'aurez vu, et en même temps de terreur sourde. La maladie touche en 1832 l'ensemble de l'Europe et Paris puis toute la France vont connaître des mois terribles face à ce fléau de contagion qu'aucun médecin ne réussit à freiner. Tout a commencé le 26 mars 1832. Il fait beau, il fait doux dans la capitale, c'est une belle journée de printemps. Seulement rue Mazarine, l'entourage du comte de Lobau, le comte de Lobau est un maréchal de France qui a participé aux grandes batailles napoléoniennes, son entourage est inquiet. Le cuisinier du maréchal est pris depuis plusieurs heures de diarrhée, de vomissements. Il est atteint de spasmes, bientôt de délire. On l'a vu depuis un moment déjà faible, apathique, sa peau devient bleuâtre. Ses yeux se révulsent, et bien moins de 12 heures après l'apparition des premiers symptômes, le cuisinier du comte de Lobau est mort. Au même moment, ailleurs dans la capitale, une fillette de 10 ans succombe dans des conditions qui sont tout à fait comparables. Dans le quartier de l'Arsenal, une commerçante ambulante est foudroyée par le même mal. Un marchand d'œufs près de l'hôtel de ville meurt également. Et tout ça est étrange car au début du mois, l'égyptologue Champollion est mort des mêmes symptômes. En fait, Paris, sans le savoir encore véritablement, est en train de compter les premières victimes du choléra. Pendant toute l'année, la maladie va faire des progrès. Jean-Noël Fabiani, dans son ouvrage « C'est l'hôpital qui se moque de la charité », le raconte le 7 juillet 1802, la création du conseil de salubrité du département de la Seine avait permis à l'administration de disposer d'un organisme de consultation stable et les communes furent donc chargées de porter assistance aux pauvres, de gérer les hôpitaux, de distribuer des secours et des médicaments aux indigents. Paris, à l'époque, est un véritable foyer d'insalubrité, il faut le dire, hein, c'est un vaste cloaque. Certes, on a mené au XVIIe, au XVIIIe siècle de grands travaux d'urbanisme, et puis sous l'Empire, bien sûr, mais la plupart des quartiers n'ont quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Or, en 1831, le recensement parisien fait état de 775 000 habitants. 775 000 et on relève environ une vingtaine de milliers de maisons qui sont insalubres. Dans les hôpitaux, les pauvres, les sans-logis s'entassent, le réseau d'égouts est complètement vétuste et d'ailleurs les points d'eau potable sont très rares. Victor Hugo dans Les Misérables le dit, depuis 10 siècles, le cloaque est la maladie de Paris, l'égout est le vice que la ville a dans le sang. Les denrées, la viande en particulier, sont exposées en plein air, tout ça, ça devient des véritables nids de bactéries. Bien avant le début de l'épidémie en France, les autorités ont pris un certain nombre de mesures, c'est vrai. Elles savent que le fléau, après avoir touché l'Asie, ravage maintenant l'Europe. En août 31, un comité central de salubrité a pris des mesures d'hygiène. On a essayé d'avertir la population, de la former, si je puis dire. Les égouts ont été nettoyés, on a essayé de laver le plus grand nombre de ruelles. Des hôpitaux, dont Saint-Antoine et Cochin, sont affectés au traitement exclusif des colériques, CH, bien entendu. Et des hospices à Montmartre, au Mont-Valérien, etc., vont accueillir les convalescents. Au début de l'année 1832, 48 bureaux de secours ouvrent à Paris, 24 en banlieue. Une circulaire est adressée au commissaire de police. Tout malade atteint du choléra devra être dirigé immédiatement à l'hôpital le plus proche, sans passer par les médecins du bureau central d'admission.
Paraît qu'on attend le choléra, la chose est positive. On ne sait pas quand il arrivera, mais on sait qu'il arrive. L'alcoolera qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera.
L'alcoolera qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera.
Les pharmaciens vont répétant, il vient, la chose est sûre. Achetez-nous du désinfectant, du sulfate des chlorures. L'alcoolera qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera.
L'alcoolera qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera.
Vlal choléra qu'arrive, une chanson du 19e siècle que l'on pouvait entendre à l'époque au Lapin Agile, dans ce cabaret de la Butte Montmartre. Et c'était une chanson chantée par Stello sur Europe 1. Restez avec nous. Au 19e siècle, nous y sommes. Nous sommes en 1832 avec Franck Ferrand qui vous parle de l'épidémie de choléra à Paris.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous consacrez votre émission à l'histoire des hôpitaux en France à travers les siècles. Et vous vous arrêtez sur cette période traumatisante pour Paris, 1832, avec cette épidémie de choléra.
Et oui, le 26 mars, il faut se rendre à l'évidence, le choléra est dans Paris. Le 29, le Moniteur Universel, le grand journal, publie dans ses colonnes les premières informations sur l'épidémie. Quelques accidents survenus dans les journées des 27 et 28 mars donnent lieu à penser que le choléra spasmodique s'est manifesté à Paris, écrit le journaliste. Des mesures ont été prises pour bien constater les faits et ce n'est que lorsque l'on aura acquis la certitude que la maladie offre véritablement les caractères du choléra spasmodique qu'on pourra notifier officiellement cette nouvelle. Bref, en d'autres termes, circulez, tout va bien, braves gens, dormez en paix. Il ne faut pas s'inquiéter, d'autant plus que ce 29 mars est jour de fête, c'est la mi-carême. Le poète allemand Heinrich Heine, qui est à Paris à l'époque, fera état de cette insouciance dans la Gazette d'Augsbourg. Je le cite en traduction. « Les Parisiens se trémoussèrent avec jovialité sur les boulevards. On aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure défaite, raillaient la crainte du choléra et la maladie elle-même. Le soir du même jour, les bals publics furent fréquentés plus que jamais. Les rires les plus présomptueux couvraient presque la musique éclatante. On s'échauffait beaucoup au chahut, danse peu équivoque. On engloutissait à cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides. Quand tout à coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l'étonnement de tout ce monde un visage d'un bleu violet. On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie, les rires se turent, et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures de masques du bal immédiatement à l'Hôtel Dieu, l'hôpital central, où en arrivant sous leur burlesque déguisement, le plus grand nombre moururent. Comme, dans le premier moment d'épouvante, on croyait à la contagion et que les anciens hôtes de l'hôpital avaient élevé d'affreux cris d'effroi, on prétend que ces morts furent enterrés si vite qu'on ne prit pas le temps de les dépouiller des livres bariolés de la folie et qu'ils reposent dans la tombe gaiement comme ils ont vécu. Les cas de choléra, d'abord isolés, vous l'aurez compris, vont se montrer de plus en plus nombreux, de plus en plus rapprochés, c'est bien une épidémie. Le 30 mars, le Moniteur universel recense 62 cas, 24 décès. La première page du journal publie de nouveau la fameuse instruction populaire et une mise en garde. Nous prions le public de n'ajouter aucune foi aux prétendus moyens préservatifs et curatifs dont les charlatans cupides font vanter les propriétés dans des journaux ou qu'ils annoncent par des affiches placardées sur les murs de la capitale. Si l'autorité était assez heureuse pour connaître un semblable moyen, elle ne manquerait pas de le publier et de le recommander. Le lendemain, on compte 178 colériques, dont 60 vont très vite mourir. C'est la panique, les hôpitaux sont débordés. Beaucoup se croient victimes du choléra ou suspectent l'état de santé de leurs voisins ou de simples passants, à tort bien entendu, mais après c'est la psychologie qui fait son travail bien entendu, et bien des Parisiens vont se calfeutrer à partir de ce moment-là, ils vont s'enfermer chez eux, l'épidémie va créer une extrême tension, on parle d'un empoisonnement collectif, il y a une rumeur qui se développe comme ça, toute personne munie de bouteilles de pastilles, de fioles, ou même de simples morceaux de pain, voire même d'un œuf, toute personne qui pourrait empoisonner de la nourriture est désormais suspecte. Et il y a des scènes violentes. On va massacrer rue Saint-Denis un jeune homme soupçonné d'avoir voulu jeter du poison dans les brocs d'un marchand de vin. Dans le faubourg Saint-Denis, deux individus sont poursuivis, accusés d'avoir voulu donner une tartine empoisonnée à des enfants. Vous voyez cette idée du poison, en quelque sorte. Le 1er avril, les détenus politiques de la prison de Sainte-Pélagie se révoltent. Ils brisent le mobilier, ils maltraitent les gardiens et pendant ce temps, des républicains se battent contre la garde municipale. Ça y est, c'est le désordre qui est inhérent quasiment à toute situation et à toute affaire d'épidémie. Le président du conseil de l'époque, on est donc sous la monarchie de Juillet, hein, le roi est Louis-Philippe Ier, Casimir Perier ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas là la pensée d'un peuple civilisé, dit-il, c'est le cri d'un peuple sauvage. Oui, d'accord, mais en attendant. Le 9 avril, 1200 cas de choléra ont été répertoriés, 814 décès. Le 14 avril, vous voyez qu'on n'est que 5 jours plus tard, on est déjà à 7631 décès. Aucun quartier n'est épargné. Les quartiers populaires, évidemment, sont ceux qui paient le plus lourd tribut. Dans le Juif errant, voici ce que raconte Eugène Sue. Dans les quartiers sombres, infects, il ne s'agissait plus d'individus mais de familles entières enlevées en quelques heures. Pourtant, parfois, ô clémence providentielle, un ou deux petits enfants restaient seuls dans la chambre froide et délabrée après que père et mère, frères et sœurs étaient partis en cercueil. Les plus riches, évidemment, ont déjà tenté de fuir. On essaie de s'installer le plus loin possible de Paris, en province, pourquoi pas même à l'étranger. Heinrich Heine note que l'argent est une protection contre la mort. Ça aussi, c'est un grand classique des épidémies. Les salles de spectacle sont désertées maintenant. Le violoniste Paganini, qui se trouve à Paris... On avait fait une émission sur Paganini il y a quelque temps. On avait dit qu'il était à Paris justement au moment du choléra, il écrit à un ami le 18 avril 1832, je le cite, « Tous fuient Paris à cause du choléra morbus. La police, à ce jour, a délivré plus de 130 000 passeports, parce qu'à l'époque, il faut des passeports pour voyager, même en province. Le nombre de morts du choléra est de 11 000 environ. Je me distrais au cimetière en assistant à l'enterrement des victimes. Dans 2 jours, je donnerai un concert pour les malades du Grand Théâtre. Rossini a fui, poussé par la peur. Eh bien, moi, au contraire, je n'ai pas peur et je désire être utile à l'humanité. » Bravo, monsieur Paganini. En plus, c'est écrit sur le fait, là. L'inquiétude est d'autant plus grande dans la population que le chef du gouvernement, donc Casimir Perier, est atteint bientôt du choléra après avoir rendu visite à des malades à l'Hôtel Dieu. Toute la presse en parle, bien entendu. On suit l'état du malade le plus célèbre du royaume. Son agonie va durer plus d'un mois face à la grande mort noire armée de sa faux, venue nous écraser aux rives de la Seine sous les roues de son char. Une fois de plus, vous aurez reconnu Chateaubriand.
L'épidémie de choléra à Paris en 1832, voilà ce que vous propose de découvrir en détail Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes toujours au cœur de cette épidémie, au cœur de l'histoire de Paris en 1832, épidémie de choléra qui devient de plus en plus importante et de plus en plus meurtrière, Franck.
Oui, et dramatique. Encore Eugène Sue, on remplissait les bières et on les clouait jour et nuit, plutôt le jour que la nuit. Car dès le crépuscule, à défaut des corbillards insuffisants, arrivait une longue file de voitures mortuaires improvisées, tombereaux, charrettes, tapissières, fiacres venaient servir aux funèbres transports. Les cercueils manquent donc, et les morts sont inhumés bientôt dans de simples sacs. On va voir se produire aux portes des cimetières de véritables embouteillages, on n'avait jamais connu ça. On entasse les corps les uns sur les autres dans des fosses communes creusées à la hâte, dans un climat, dans une atmosphère dont vous pouvez imaginer qu'ils sont pestilentiels. L'hécatombe touche un certain nombre de personnalités, je l'ai dit tout à l'heure. Un des grands savants de l'époque, Georges Cuvier, est atteint le 13 mai. Alors, on a envie de dire, que font les médecins? Les plus grands spécialistes sont consultés sans solution particulière. On invente des potions, des infusions, du punch dans une infusion de camomille, des onctions aux huiles aromatiques, une potion d'acétate composée d'ammoniac, de sulfate de quinine, d'éther sulfurique et de camphre. Certains médecins ont même des remèdes multiples. L'un recommande de faire baigner les malades dans un bain à 32 degrés, puis de leur appliquer des sangsues avant de leur faire absorber une infusion aromatique de mélisse, de menthe et de camomille. Pour le médecin-chef de l'Hôtel Dieu, le seul traitement possible consiste, je le cite, en des ventouses scarifiées au niveau de l'abdomen, une extraction de 2 ou 3 onces de sang, des décoctions de tête de pavot et des fumigations. Et je vous passe les idées farfelues comme celle qui court dans Paris, qui est d'appliquer un fer à repasser chaud dans le dos. Vous imaginez tout le bien que ça pouvait faire. La vérité, c'est que tout le monde est démuni face au choléra. Certains achètent de faux remèdes à des prix exorbitants, d'autres prient les saints guérisseurs. La tension est à son comble et évidemment, elle a des traductions politiques. On est en France, après tout. L'épidémie de choléra va être le prétexte à faire tomber le régime en place. Les adversaires de la monarchie de Louis-Philippe s'agitent, certains proposent même de décapiter le roi et ses ministres, et pourtant Louis-Philippe n'est pas insensible à la situation. Il a fait un don très important de 584 000 francs de sa cassette personnelle pour essayer d'équiper 1200 nouveaux lits d'hôpital. Le choléra touche donc des ministres, je vous l'ai dit, le chef du gouvernement Casimir Perier. Le 16 mois, après plus d'un mois d'agonie, Casimir Perier meurt finalement, et ça va provoquer cette mort. Une explosion de joie chez les légitimistes comme chez les républicains. La tension n'en retombe pas pour autant. La duchesse de Berry, qui est donc légitimiste, exilée en Italie, prépare son retour en France et le soulèvement de la Provence, nous dit André de Batty. Sur la suggestion de Chateaubriand, elle met à la disposition des malades du choléra 12 000 francs que l'écrivain offre au comte de Bondy, préfet de la Seine. Le préfet refuse ce don, de même que la plupart des maires des arrondissements de Paris. Finalement, Chateaubriand remet 4000 francs à l'archevêque, monseigneur de Quélen, bien connu pour ses sentiments légitimistes. La politique n'est jamais loin, en France en général, et à Paris en particulier, comme vous pouvez le voir. Le 5 juin vont se dérouler les funérailles d'un républicain, d'un fervent républicain, le général Lamarque, mort 3 jours plus tôt du choléra. 2000 personnes suivent le cortège funèbre, malgré l'épidémie, dont de nombreux républicains. Alors, affrontement avec les forces de l'ordre, etc. L'émeute est finalement écrasée et en tout, on compte 800 morts et blessés. Jusqu'à la fin de l'été 1832, Paris, et quand je dis Paris, au-delà de Paris, de plus en plus de provinces de France sont touchées par le choléra. Les derniers cas seront signalés en octobre, en novembre, tout à fait dans le Midi et dans les Pyrénées. 18 402 morts auront au total été recensés à Paris, mais les registres d'état civil n'étant plus tenus à cause de l'épidémie, les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu en vérité beaucoup plus de victimes. On serait beaucoup plus haut. Alors, il y aura d'autres épidémies de choléra en France. En 1854, 143 000 personnes meurent dans tout le pays. Et 30 ans plus tard, en 1884 seulement, un savant va identifier le germe responsable du choléra. Ce savant, il s'appelle Robert Koch. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors, on va revenir un petit peu sur le choléra et beaucoup sur toute l'histoire de l'hôpital.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, pour évoquer l'hôpital à travers les âges et l'évolution de l'hôpital, Franck Ferrand, vous recevez Jean-Noël Fabiani, chef de service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, et professeur à la faculté René Descartes où il enseigne l'histoire de la médecine.
Et le professeur Fabiani est donc l'auteur de cet ouvrage bourré d'anecdotes, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions des Arènes. Vous y racontez 28 histoires iconoclastes sur les médecins, sur les malades et sur l'hôpital. Alors, revenons, si vous le voulez, sur cette épidémie de 1832 qui a traumatisé les Parisiens, même si elle a fait somme toute moins de morts que celle de 1854, mais elle est restée vraiment dans les consciences. Ça a été la dernière des grandes épidémies littéraires, d'une certaine façon. C'est peut-être ce qui l'a rendue célèbre aussi, bien sûr. Il y avait de bons chroniqueurs.
Un chroniqueur comme Chateaubriand, il n'y a pas beaucoup de maladies qui peuvent se le permettre.
Alors, à l'époque, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait et encore moins comment traiter le choléra.
Absolument pas. Le fond du problème du choléra, c'est une maladie qui vous vide. Vous vous videz de toute votre eau parce que vous vomissez, que vous avez des diarrhées épouvantables. Et en quelques jours, parfois même en quelques heures, c'est la mort. C'est la mort par déshydratation. Et on ne sait absolument pas lutter contre ça. Et cette épidémie, après Paris, va aller à Édimbourg. Et à Édimbourg, un homme, le premier dans l'histoire de la médecine, a eu l'idée d'injecter du liquide pour compenser cette perte de liquide. Il s'appelle Thomas Latta. Il invente, sans le savoir, la réanimation.
C'est extraordinaire. Quel liquide est-ce qu'on injectait ?
De l'eau avec du sel, tout simplement, pour compenser plusieurs litres d'eau, de façon à empêcher cette déshydratation profuse qui est la cause de la mort dans le choléra morbus.
Oui, et alors ça permet de soigner, en tout cas ça évite de mourir. Est-ce qu'il y a ensuite des séquelles lorsque...
Bien sûr qu'il peut y avoir des séquelles digestives, mais la mort dans cette maladie est véritablement une mort par déshydratation. Il faut absolument être capable de réhydrater rapidement le patient, et si on passe ce cap, eh bien la maladie disparaît.
Alors généralement, on mourait, il faut le dire, soit là où on se trouvait dans la rue, soit pour la plupart des gens dans leur maison, souvent dans leur lit. On ne mourait pas à l'hôpital, ça ne serait d'ailleurs venu à l'idée de personne. On envoie à l'hôpital les cas simplement cliniques, avérés. Le principal hôpital de Paris à l'époque, c'est l'Hôtel Dieu, bien entendu.
C'est encore l'Hôtel Dieu, oui, c'est lui qui rassemble les malades. Mais on va voir que l'hôpital a des tas d'autres rôles que celui de soigner les malades.
Mais c'est ça. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Hôtel Dieu, il faut peut-être revenir sur les origines de cette très vieille institution médiévale. C'est ce que vous nous racontez. Et vous nous rappelez, je dis rappeler, mais je suis sûr que pour un certain nombre de nos auditeurs, ça va être une découverte, que l'hôpital autrefois n'était pas vraiment destiné aux malades. En tout cas, pas seulement. Il était surtout destiné aux miséreux, aux pauvres.
Voilà, et puis à ceux qui passaient au départ.
C'est ça, voilà.
Comme son nom
l'indique, hôpital, c'est pour être hospitalier, pour faire l'hospitalité.
On fait un hôtel, d'ailleurs on appelle un hôtel Dieu, la Domus Dei. On accueille celui qui passe, le pèlerin par exemple est accueilli, ça peut être aussi le miséreux, et ça peut être enfin le malade. Mais il ne faut pas oublier que pendant tout l'Ancien Régime, la notion de misère et la notion de maladie sont très proches. Est très difficile à séparer l'une de l'autre. Et jusqu'à la Révolution française, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, on pense encore que la maladie et la misère, c'est à peu près la même chose.
C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est convaincu, dans la mesure où la grande majorité des malades se révèlent dans les quartiers difficiles et dans les bas-fonds de la société, on est convaincu que la misère entraîne la maladie réciproquement, en fait. Donc, on soigne d'une certaine manière, les deux, dans ces espèces de grands hospices qui sont des fondations de charité pour l'essentiel.
Alors, essentiellement, c'est des fondations de charité sous l'obédience de l'Église, quand
même. Bien sûr.
Jusqu'à la Révolution française, c'est l'Église et la charité qui permettent de recueillir ces gens qui sont les plus pauvres de la société, parce que les riches, bien entendu, se font soigner quand ils sont malades chez eux, et ils ne vont pas à l'hôpital.
Alors, ce sont les grandes villes qui voient naître les plus grandes institutions, et naturellement, Paris, la capitale du royaume, va voir se développer un certain nombre d'établissements. Alors, il y a le fameux Hôtel Dieu qui est en plein cœur de la cité, mais on crée également des hôpitaux pour essayer de dégorger un peu l'Hôtel Dieu, justement. D'où la naissance de l'hôpital Saint-Louis que vous nous racontez dans l'ouvrage.
Absolument. On voit bien qu'il y a des gens qui sont des contagieux. On commence à comprendre la contagion. On ne sait pas encore très bien ce que c'est. Mais on la met, à l'époque, dans les prés. C'est-à-dire hors
possible.
Les murs.
Ben oui, voilà.
Hors les murs, parce que Saint-Louis s'est construit hors les murs par Henri IV pour y mettre les gens. Alors, il y a des gens qui sont mis là, qui sont vraiment des contagieux, puis d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, on met les épileptiques. C'est pas contagieux, mais ça fait, on ne sait pas.
On n'en sait rien,
voilà,
à l'époque.
On n'en sait rien. En tout cas, c'est impressionnant, donc ça doit être grave. Donc, on les met dans cette institution, et ainsi de suite.
Et on veut, en quelque sorte, nettoyer les villes. Il y a, sous le règne de Louis XIV, ce grand mouvement qui a tellement bien, en tout cas bien, je ne sais pas, mais qui a beaucoup décrit Michel Foucault, ce qu'il a appelé, lui, le grand enfermement.
Le grand renfermement. Hein,
et il dit qu'en fait, il s'agit de libérer les villes, de les nettoyer de tous ceux qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire les miséreux, les fous, les mendiants, les vagabonds. Hop, on enferme tout ce monde-là dans
les prostituées, les femmes infidèles, les malandrins. Il faut absolument... Et les amputés. Et les amputés, parce que ceux qui avaient fait des batailles qui étaient amputés, ils montraient leurs moignons dans les rues, ça créait pas des vocations.
Oui.
Et eux, on les envoie aux invalides. Alors, les femmes, on les met à la Salpêtrière, les hommes, on les met à Bicêtre, et on met les invalides à l'hôtel des invalides.
Et les fous aux petites maisons, comme on disait.
Voilà.
Alors, c'était donc des institutions qui étaient effroyables.
Eh bien,
se concentrait la misère, par définition.
Oui. Et avec un nouveau concept de l'hôpital, qui est l'hôpital prison. C'est des établissements où les archers des pauvres allaient chercher tous ces gens dans les rues de Paris et les enfermaient. On y entrait, certes, mais on n'en sortait plus.
C'est ça.
Donc l'hôpital devient une prison. Et ça a été une de ses grandes fonctions pendant l'Ancien Régime.
Et est-ce que ça n'est pas l'une des raisons de... Alors bon, évidemment, il est naturel qu'on n'ait pas tellement envie d'aller à l'hôpital pour des raisons multiples. Mais, naturel. Mais quand même, cette notion de grande institution, de caserne, de prison, va donner à l'hôpital une mauvaise réputation et que, dont on perçoit encore les échos peut-être jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est bien possible.
Dans une certaine mesure.
Ce qui est certain, c'est que l'hôpital n'est pas vraiment un lieu médical. Il est en partie médicalisé et pas du tout un lieu de chirurgie à l'époque. Faut le préciser, ça. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est d'abord le plateau technique, si je puis dire. C'est la chirurgie. À l'époque, c'est pas le cas.
Mais, allez, aux époques où nous parlons, eh bien, d'abord, de la médecine, il n'y en a pas.
Bah oui, c'est ça. Bon.
Et puis de la chirurgie, à peine. Donc, il va falloir attendre quelques siècles pour que l'hôpital prenne une vocation médicale. On est bien dans une vocation, comme vous l'avez très bien dit, on parque ceux qu'on ne veut pas voir, on y met les miséreux parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et l'hôpital a ce rôle d'assistance, en quelque sorte, d'assistance publique, qui va reprendre à la Révolution, mais c'est au départ une assistance des plus misérables de la société.
La chirurgie, dans un premier temps, elle est confiée à ceux qui possèdent les lames, c'est-à-dire aux barbiers.
Aux barbiers,
hein. Oui. Les barbiers chirurgiens, c'est une corporation.
C'est une corporation, et puis pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, rien ne coupe. Les seuls qui ont des lames qui coupent, ce sont les barbiers, parce qu'ils font la barbe.
Ah oui.
Alors, ils ont, comme vous dites, une corporation, ils ont comme un peu un salon de coiffure, hein, avec un plat à barbe comme enseigne, soit doré, soit argenté selon leur grade, et on y va. Alors, on y va pour se faire la barbe, pour se faire couper les cheveux aussi, on y va aussi pour se faire les saignées. Sous l'indication des médecins. Les médecins disent, il faut saigner ce patient, alors on saigne. Et puis aussi les abcès et tout ça avec la même lame, bien entendu.
Il devait y avoir des cas d'infection multiples, hein, ça devait...
Oui.
Pas tant
doute.
Que ça, vous n'avez pas l'air de dire que...
Pas sans doute. Je pense qu'il y en avait, bien entendu. Mais il y avait aussi une immunité extraordinaire de la part de tous nos ancêtres.
On va parler dans un instant de deux de vos grands devanciers, à des siècles d'écart, Ambroise Paré et Dominique Larrey, bien entendu. Et puis, nous reviendrons sur l'évolution beaucoup plus moderne d'un hôpital qui, lui, sera médicalisé.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Extrait du générique de la série Dr House à l'instant sur Europe 1. Mais nous, c'est un vrai docteur que nous recevons cet après-midi, un vrai médecin. Jean-Noël Fabiani est votre invité, Franck Ferrand. Il est chef du service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Professeur à la faculté René Descartes, où il enseigne l'histoire de la médecine. Et auteur de « C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours » paru chez les Arènes.
Oui, Jean-Noël Fabiani est un chirurgien. Nous allons venir à la chirurgie dans un instant à travers deux très grands exemples. Mais un mot de la médecine quand même. Vous avez dit tout à l'heure, la médecine n'existait pas. Il y avait quand même une médecine. On avait notamment, vous le racontez vous-même, la plus vieille fac de médecine du monde occidental, celle de Montpellier.
Oui, mais les facultés de médecine, qu'est-ce qu'elles font? Elles commentent les anciens. Donc, on parle en latin et en grec. On parle de Galien. On répète les textes.
On parle d'Hippocrate, évidemment.
On fait des diafoirus. On a très peu de moyens de soigner. Alors si, il y a des plantes quand même, ce qu'on appelle les simples. Alors, mais vous savez, on les connaît ces plantes. Hein. C'est les plantes qu'on utilise en cuisine actuellement, grosso modo. On peut utiliser aussi quelques métaux. Hein, l'antimoine, on utilise le mercure. On ne peut pas dire que ce soit très bon pour la santé, le mercure. Mais enfin, on l'utilisait. On utilise beaucoup les fientes aussi. Les fientes d'animaux qui avaient des propriétés excellentes. Bon, et ainsi de suite. Enfin, bon.
Lorsqu'on visite les pharmacies des anciens hôpitaux. J'ai eu la chance de voir ça l'autre jour à Lons-le-Saunier. C'est magnifique de voir tous ces bocaux de faïence dans lesquels on réservait justement un certain nombre d'essences de plantes, etc., qui étaient censées soigner autant que faire se peut. D'ailleurs, parfois avec une certaine efficacité, on ne peut pas le nier. Alors, les grands chirurgiens, le tout premier, le père de votre profession, c'est Ambroise Paré, bien entendu, chirurgien militaire. Car ce sont des chirurgiens militaires qui vont faire avancer la discipline.
Évidemment, ils accompagnent les troupes. Et là, ils sont confrontés à véritablement de la traumatologie lourde. Et il faut agir. Et alors Ambroise Paré, il s'est rendu célèbre, même si c'est un peu usurpé. Je le raconte dans l'histoire. Enfin, il s'est rendu célèbre parce que, au lieu de faire des amputations, quand on faisait une amputation, hein, faut bien dire ce qu'il y a, accru, bien sûr, il n'y a pas d'anesthésie, nous sommes d'accord.
Bon appétit à ceux qui sont encore à
table. Pour empêcher que cela saigne, on prenait des tisonniers chauffés au rouge et on brûlait la plaie.
On cautérisait.
Ben la cautérisation, vous savez, le bisturi électrique, hein, c'est pas autre chose. Mais enfin, un peu plus sophistiqué quand même, mais c'est pas autre chose. Alors lui, il a l'idée de, toute bête, de dire, au lieu de cautériser, on va lier les artères pour qu'elles ne saignent pas. Et il a une idée formidable, il prend le crin du cheval de l'ambulance, crac, il prend des... C'est pour ça qu'on appelle ça un crin chirurgical, et il fait un nœud, tout simplement, pour empêcher que l'artère saigne. Et donc, il invente la ligature artérielle. C'est ce qui l'a rendu célèbre.
Bien sûr. Alors, ce qui l'a aussi rendu célèbre, c'est d'avoir sauvé François le Balafré, hein, le duc de Guise.
Bien sûr.
Il n'a pas pu sauver le pauvre roi Henri II d'une blessure qui, elle, était beaucoup trop importante.
Elle pénétrait l'orbite, elle allait jusqu'au cerveau.
Mais avec Vézal, Vézal, le grand anatomiste, et lui, le grand chirurgien praticien, ce sont les pères, en quelque sorte, de cette discipline, où s'illustrera beaucoup plus tard, mais toujours sur des champs de bataille, le célèbre Larrey. Alors là, on est à l'époque des guerres napoléoniennes.
Alors là, c'est Napoléon. Alors là, on change de domaine, bien entendu. Larrey comprend quelque chose de fondamental en chirurgie, c'est qu'il faut aller très vite. Avant Napoléon, eh bien, le service de santé était à 4 lieues derrière les troupes et il n'arrivait pour soigner les soldats que lorsque la bataille était finie. Trop tard, pour la plupart des cas, trop tard. Et Larrey et Desgenettes ont l'idée de faire des ambulances volantes qui vont pendant la bataille, sur le champ de bataille, récupérer les soldats pour les soigner le plus vite possible.
Eh oui, et on ne laisse plus mourir comme ça pendant des jours, parfois, ceux qui étaient tombés au combat. J'avais eu l'occasion de raconter, c'était ma toute première émission sur cette antenne, la bataille de Solferino en 1859, avec la création, qui a donné lieu, en tout cas, à la création de la Croix-Rouge par Dunant, parce que Dunant, qui lui était un entrepreneur, hein, il n'avait rien à voir avec tout ça.
Il est passé là, il a vu cette horreur.
Cette hécatombe,
en fait, sous un soleil de plomb, pour le coup.
Horreur.
Et 40 000 morts. mort hein, quand même,
incroyable.
Solferino. Et il a décrit un livre qui a été Une journée à Solferino, qui a eu véritablement un impact médiatique sur toute la société, et il a pu créer la Croix-Rouge avec, bien entendu, tous les bénéfices qu'on a attirés.
Alors, ce que vous nous racontez dans cet ouvrage, qui s'appelle donc « C'est l'hôpital qui se moque de la charité », joli titre, ce que vous nous montrez, c'est non seulement l'évolution de l'hôpital au cours des siècles, mais l'histoire de ceux qui ont fait bouger les choses. Quand on voit l'AENEC inventer le stéthoscope, ça paraît peu de choses. En vérité, c'est la base de tout.
Alors, l'AENEC invente parce que l'AENEC était un homme extrêmement prude. Et donc, il y avait une dame qui avait, il n'arrivait pas à entendre, parce qu'on mettait à l'époque son oreille sur la poitrine des gens. Mais elle était habillée, c'était
avec un petit cornet. On avait un petit cornet. Hein.
À peine.
À peine, oui.
À peine. Et l'AENEC a une idée. En passant sous les guichets du Louvre, il voit des gosses qui tapent sur une planche de bois et les autres qui écoutent le bruit à distance, à l'autre bout de la planche. Et il dit, mais ça, c'est une idée formidable. Et le lendemain, il revient en prenant des feuilles tournées sur elles-mêmes, faisant un cornet, pour le coup, et il la met sur la poitrine de cette dame. Et là, il fait le diagnostic de la maladie de cette dame. Et il invente ainsi le stéthoscope.
Qui sera beaucoup perfectionné, évidemment. Par la suite. Alors, on ne reviendra pas, si vous voulez, nous, sur Claude Bernard, sur Pasteur, évidemment, hein, puisque nous avions déjà fait, d'ailleurs, une émission, même plusieurs, sur Pasteur. Un mot peut-être d'Ernest Duchesne, parce qu'il est moins connu que les autres. Et pourtant,
alors,
il aurait dû
l'être davantage.
Ernest
Duchesne, c'est une personnalité formidable. C'est un médecin militaire, il est très jeune, et il fait sa thèse, et il fait dans sa thèse, le thème de sa thèse, c'est une opposition entre les microbes et les champignons. Il avait découvert que certains champignons, comme les Penicillium notatum, étaient capables d'empêcher la croissance des micro-organismes bactériens. Il avait en gros inventé, découvert la pénicilline. Il a un grand succès à sa thèse, les grands patrons l'écoutent. Malheureusement, ce pauvre Duchesne, il est tuberculeux. Et il va mourir quelques années après sans avoir pu continuer lui-même ses travaux. Et ses patrons n'ont pas eu l'idée de poursuivre son travail. Ce qui fait que la pénicilline aurait pu naître finalement dans les années 1890, ce qui aurait été d'abord une découverte française, mais surtout...
Et surtout, ça aurait épargné combien de vies, hein, ça aurait été incroyable.
Pendant la guerre de 14, ça aurait été formidable. Il a fallu attendre Fleming, la guerre de 39-45, pour que la pénicilline soit redécouverte.
Ça c'est l'histoire d'une occasion manquée,
exactement.
En quelque sorte. Alors, à partir de quand peut-on dire que l'hôpital, d'une vocation d'abord, on a vu, policière et disons de charité, acquiert une vocation purement médicale? À partir de quand l'hôpital se médicalise-t-il?
Eh bien, c'est à la suite de la Révolution française pour la raison suivante. Parce que la Révolution a supprimé les hôpitaux.
Oui.
Quelqu'un comme Saint-Just dit, puisque... nous allons supprimer la misère, nous n'avons plus besoin d'hôpitaux.
Parce que pour lui, misère et maladie,
parce que pour lui, misère et maladie, c'est la même chose. D'autre part, Carnot avait quand même viré toutes les bonnes sœurs de tous les hôpitaux, donc il n'y avait plus de personnel dans les hôpitaux. Et ces hôpitaux, comme il faut aller jusqu'au bout des choses, on va les vendre comme biens nationaux en assignat. Si bien que le directoire arrive, il n'y a plus d'hôpitaux en France. Et là, le directoire est obligé de recréer des hôpitaux, d'obliger la création d'hôpitaux, les confier aux maires. On quitte le religieux pour passer au civil. Et puis, le premier consul arrive, c'est Bonaparte. Et on lui dit, mais vous savez, monsieur le premier consul, il n'y a pas de médecin dans les hôpitaux, il n'y en a jamais eu, mais enfin, il n'y en a pas du tout. Vous savez, ils viennent parfois le matin, mais c'est tout. Et là, Bonaparte a une idée formidable. Mais typiquement...
Une de plus, il faut le dire quand même.
Il dit, on va créer un corps de médecins qui sera présent nuit et jour dans les hôpitaux.
Médecine hospitalière.
Ça sera l'internat des hôpitaux. 1802, il crée un concours, il dépose le décret, c'est au mois de février, le concours a lieu en septembre, il ne traîne pas le premier consul, et là, par concours, les meilleurs seront assignés à l'hôpital. Et ce faisant, il va créer une méritocratie, en quelque sorte, des médecins vers l'hôpital, et va attirer les meilleurs des médecins vers l'hôpital pendant tout le 19e siècle.
C'est quand même intéressant de voir que les trois plus grands chefs d'État français ont été les trois grands artisans de l'hôpital en France. Louis XIV qui couvre le royaume d'hôpitaux, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Napoléon qui crée cette médecine hospitalière. Et puis n'oublions pas le général de Gaulle.
Le général de Gaulle. Qui va imposer la réforme de Robert Debré, qui crée ce qu'on appelle les centres hospitalo-universitaires et qui oblige le plein temps hospitalier. C'est-à-dire que tous les grands spécialistes d'hôpitaux soient plein temps à l'hôpital. Et c'est la réforme de 1958 qui a véritablement permis à la médecine française d'acquérir un niveau scientifique international de premier plan.
Alors, il nous reste très peu de temps, ça tombe bien, parce que je ne veux pas que nous entrions dans toutes les polémiques actuelles, mais il y a deux grandes questions qui se posent aujourd'hui. C'est celle de la médecine de proximité, des hôpitaux de proximité, puisqu'on a tendance à concentrer désormais les moyens sur de très très grandes unités, mais que faire des régions qui n'ont plus d'hôpital maintenant ?
Alors, malheureusement, la médecine a progressé dans des proportions incroyables au cours des 50 dernières années, est devenue d'une technicité absolue.
Et d'un coup ?
Et d'un coup extraordinaire. On est donc obligé de prendre ça en ligne de compte, ce qui va compter sur le développement de l'hôpital du futur. On ne peut plus raisonnablement faire des petits hôpitaux partout, malheureusement, même si c'est agréable, même si c'est confortable.
C'est plus pratique, oui, bien sûr.
Bien sûr, mais ça ne peut pas aller. Il faut plutôt faire des moyens de transport pour que les gens aillent sur des gros centres très bien équipés, avec des plateaux techniques très lourds, où seront pris en charge les soins du futur.
Autre question sur l'urgence de laquelle on a l'autre jour attirer mon attention, c'est la question du numerus clausus et des problèmes que ça pose en termes de renouvellement d'un certain nombre de cadres médicaux.
Oui, il faut qu'on ait un nombre de médecins absolument suffisant.
Oui.
Mais actuellement, beaucoup de médecins qui travaillent en France sont des médecins qu'on a été recrutés à l'étranger.
Et c'est ça, oui.
Faut être clair, des médecins qui viennent soit des pays de l'Europe de l'Est, soit des pays du Maghreb.
Bon, alors nous n'aurons pas développé ces sujets, mais on ne pourra pas dire que nous ne les avons pas du tout évoqués. Ça n'est pas néanmoins l'objet de votre ouvrage, évidemment, Jean-Noël Fabiani. Vos histoires iconoclastes sur les médecins, sur les malades, sur l'hôpital sont éditées par les Arènes dans cet ouvrage. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours. On aurait pu faire exactement la même émission avec de tout autres anecdotes, je dis ça à nos auditeurs, pour leur donner une idée de la richesse de ce qui se trouve à l'intérieur de ces pages. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans un instant, sur Europe 1, on continue à parler médecine, puisque Franck Ferrand vous donne les origines de l'aspirine.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors, pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas une ordonnance, mais bien une question, Franck, une question d'Hugues qui vous demande quelles sont les origines de l'aspirine.
Et je vais répondre sous le contrôle du professeur Fabiani. L'aspirine provient au tout départ de l'écorce de saule blanc, un arbre de la famille des salicacées. Les Grecs utilisaient déjà ce saule blanc dans l'Antiquité pour ses vertus anti-inflammatoires. Et puisque nous parlions tout à l'heure d'Hippocrate, Hippocrate, on est 400 avant notre ère, Hippocrate préconisait déjà de boire des décoctions de saule blanc pour soulager les douleurs au moment de l'accouchement notamment et pour faire baisser la fièvre. Vous voyez que c'est très vieux ça. Il faudra attendre bien sûr beaucoup plus tard, au début du 19e siècle, pour que en 1825, l'italien Francesco Fontana isole le principe actif du saule issu de l'écorce. Il s'agit d'un acide qu'on appelle la salicyline. Alors depuis, en 1829, un pharmacien français, Leroux, va produire des cristaux blancs solubles dans l'eau et 10 ans plus tard, en 35, vous voyez, je vous parlais d'une proximité avec l'épidémie de choléra. En 1835, c'est un Allemand, un chimiste, Karl Jakob Löwig, qui va isoler le principe actif d'une plante qu'on appelle la reine des prés. Il obtient l'acide salicylique, qui est très proche, qu'on appelle d'ailleurs l'acide spirique, du nom de la reine des prés. Spirique, ça va donner l'aspirine, hein, vous voyez. Et cet acide est très proche de la salicyline. En 1853, le chimiste français Charles Gérard va obtenir la synthèse de cet acide acétylsalicylique qui va devenir le principal composant donc de l'aspirine. Et ce sont encore les Allemands, c'est Félix Hoffmann en 1894, puisque Gérard est mort trop tôt, lui il n'a pas été au bout. Et donc c'est Félix Hoffmann qui, pour Bayer, pour les laboratoires Bayer, va mettre au point la formule de l'acide acétylsalicylique sous forme stable et consommable. À partir de là, on peut véritablement parler d'aspirine. D'ailleurs, le brevet sera déposé à la fin de 1899. Autant dire que le XXe siècle est né avec l'aspirine, tout un symbole.